le prix Nobel d'économie tout de suite.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, comme le disait Churchill. Alors dans ces conditions, on va bien finir par réussir en matière de politique économique, parce que pour l'instant, les succès sont mesurés dans le domaine du chômage, dans celui de la dette et dans beaucoup d'autres domaines. Pourquoi l'erreur est-elle humaine en matière d'économie? On en parle tout de suite avec vous, Jean-Pinazani Ferry. Vous êtes commissaire général de France Stratégie. Vous venez de publier avec Selma Mahfouz un ouvrage intitulé « À qui la faute ?» et vous souhaitez dans cet ouvrage expliquer comment éviter les erreurs économiques. Pour les éviter, il faut essayer de comprendre le monde qui nous entoure, qui parfois nous laisse perplexes, notamment lorsqu'on essaye de comprendre la politique économique de Donald Trump. Avez-vous des clés pour tenter d'en percer les mystères? Ne vous défaussez pas, hein, attention.
Je crois qu'on a un peu de mal, oui. Il me semble que pour l'instant, ce qui est le plus clair, à travers quelques déclarations, des tweets, des nominations, c'est que l'ambiguïté qui était celle de son élection, qui était faite en fond sur l'alliance des républicains traditionnels, assez extrêmes, ceux du Tea Party, avec les classes populaires en révolte, ben, cette ambiguïté, malgré tout, se dissipe un peu, parce que les nominations... c'est plutôt l'aile Tea Party, le traditionnel du Parti républicain qui est en train de prendre les commandes. Donc je ne sais pas ce que ça va donner avec les électeurs. Peut-être ça donnera des coups, des opérations ici ou là, à grand spectacle, pour donner l'impression qu'effectivement on s'occupe des gens.
On avait l'impression qu'il s'agissait de donner plus de protection, en tout cas plus de protectionnisme aux Américains. Au final, la constitution de ce gouvernement laisse penser qu'il y aura surtout plus de libéralisme. Là aussi, votre opinion, Jean Pisani Ferry.
Alors, sur le plan du système international, là, je crois qu'on peut être assez inquiet. Parce que Trump, manifestement, ne croit pas dans le système international. Et je pense que pour le reste du monde, les États-Unis, qui étaient l'ancre de ce système qu'ils avaient construit, qui leur bénéficiait, mais en même temps qui a assuré un cadre général, notamment pour les pays émergents, pour les pays européens dans un premier temps, pour les pays émergents dans un deuxième temps, un cadre assez stable, dans lequel les États-Unis étaient prêts à assumer un certain nombre de coûts pour eux, parce que c'était un système qui leur assurait aussi une prééminence politique. C'était un système dans lequel ils avaient, historiquement, ils avaient construit ça aussi face à l'Union soviétique. Ben, ce que dit Donald Trump, c'est qu'ils ne sont plus prêts à assumer ces coûts, à assumer les coûts du leadership. Et donc je pense que, autant pour l'économie américaine, ce sera 4 ans, et la politique américaine, ce sera 4 ans, et 4 ans, c'est... Bon, c'est un cycle, et après un cycle peut en venir un autre, peut-être à la Cour suprême près. Autant pour les systèmes internationaux, il y a un grand risque dans les années à venir. C'est un système fragilisé par la montée des pays émergents, la montée d'un monde multipolaire, beaucoup plus dur. Et il y a une vraie capacité des États-Unis à casser le système.
Qu'est-ce qui pourrait, dans ce cas-là, arriver si le système se cassait ?
Beaucoup plus de relations marquées par la brutalité des rapports de force, par l'affirmation d'un monde de puissance multipolaire dans lequel les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, l'Inde de manière croissante, joueraient simplement leurs propres cartes. Et par exemple, ça a des implications très directes sur la capacité de gérer la question du climat, de gérer la question de la stabilité financière, ça qui sont des biens collectifs pour lesquels il faut tout de même que chacun a ses intérêts. Il faut qu'il y ait un souci du bien collectif.
Justement, Jean Pisani Ferry, dans un article que vous avez publié dans la revue Le Débat, vous fixiez 5 priorités pour la période 2017-2027. Dans ces 5 priorités, il y avait la question du climat. Et alors là, il semble que Donald Trump ait repoussé cette question-là à une échéance ultérieure, disons.
Alors, c'est un travail que nous avons conduit pour France Stratégie, par France Stratégie, en vue de d'éclairer les choix pour la période électorale. Et tout le monde se félicite de l'accord de Paris, à juste titre. Simplement, quand on regarde les chiffres, l'accord de Paris, il est de 30% insuffisant par rapport à ce qu'il va falloir faire pour limiter la hausse des températures, effectivement, à 2 degrés. C'est-à-dire qu'il faut que, dans les années à venir, les pays révisent leurs objectifs et révisent leurs objectifs dans le sens de l'ambition. Alors, la question, c'est, c'était déjà difficile avant. Qu'est-ce qui va se passer si les États-Unis disent ben nous, finalement, ça ne nous intéresse pas tellement. Je ne suis pas sûr qu'ils finiront par dénoncer l'accord de Paris. Je pense que le risque, c'est plutôt que cet accord, qui n'est pas très contraignant, se révèle ne pas avoir beaucoup de contenu. Alors, le signe positif, c'est tout de même que la Chine a appelé les États-Unis, très vite, après l'élection de Donald Trump, à respecter l'accord de Paris. Donc ça montre que la Chine, qui était plutôt en marge du système international, qui se considérait comme, au fond, n'étant pas porteuse de responsabilité, a pris ses responsabilités dans cette affaire. C'est très intéressant.
Ce qui va accréditer l'idée de Donald Trump que le réchauffement climatique est un complot chinois.
Exactement, oui, bien sûr, pour empêcher les Américains de consommer.
Quel est l'intérêt de la Chine de vouloir respecter l'accord de Paris, alors même que les relations semblent se tendre entre les États-Unis et la Chine, et que finalement le discours qui monte est celui d'une hostilité croissante à la mondialisation, Jean Pisani-Ferry?
La Chine a un intérêt tactique qui est de montrer justement qu'elle est un bon élève du système international, qu'elle prend à cœur cette question. Je pense qu'elle a aussi un intérêt assez direct. Hein, les pays comme la Chine, les pays émergents sont les premières victimes. Au fond, on s'inquiète pour ce qui va se passer chez nous, mais ce ne sont pas nous les premières victimes du réchauffement climatique. Hein. Ce sont des pays dans lesquels plus exposés au risque d'événements extrêmes et avec moins de ressources pour y faire face.
Plus généralement, toujours dans cet agenda 2017-2027 que vous avez fixé, Jean Pisani-Ferry, il était question
enfin,
de
fixé.
La croissance.
Non.
Bon, vous avez donné 5 priorités et en tout cas 5 axes.
C'est-à-dire que nous avons essayé de déterminer quelles étaient des questions qui s'imposaient. Mais ensuite, il y a un espace considérable pour les choix politiques et on a essayé justement de donner des indications sur l'espace des choix politiques.
Alors, parmi justement... Il faut être respectueux
quand même dans cette période.
Parmi ces indications, il était question de la croissance mondiale, une croissance qui, pour la période antérieure à 2017-2027, avait été tirée par les pays émergents et pour celle qui vient, selon vous ?
Moins. On a vécu une période exceptionnelle dans laquelle les pays émergents ont fait 80% de la croissance mondiale. Donc alors qu'auparavant, c'était les pays avancés qui tiraient la croissance, là, depuis 10 ans, ça a été une inversion complète, avec des conséquences d'ailleurs très, très vite, très visibles sur les rapports de force. Et c'est pour ça aussi que l'élection de Trump intervient dans un contexte dans lequel les rapports de force ont déjà changé. Pour la période à venir, il y aura un certain rééquilibrage. Il y a un ralentissement dans un certain nombre de pays émergents. Il y a un ralentissement en Chine, bien sûr, qui a été retardé par ces grands programmes d'investissement, par ce surinvestissement chinois, notamment dans l'immobilier, qui fait peser une menace sur l'économie chinoise. Le Brésil aussi a sensiblement ralenti. À l'exception de l'Inde, beaucoup des pays émergents ont ralenti. Et les pays avancés se redressent un peu, pas beaucoup, hein, pour l'instant, pas beaucoup, mais un peu par rapport à la période des 10 dernières années. Donc il y aura un certain rééquilibrage.
Quelles sont nos perspectives de croissance à nous, pays donc dits développés aujourd'hui, Jean Pisani-Ferry?
Alors il y a une grande, grande incertitude qui vient du fait que... le progrès technique, tel qu'on le mesure par la productivité, a ralenti. Et ça, c'est extrêmement paradoxal, puisque tout ce qui se passe autour de nous, la révolution numérique, nous laisse attendre le contraire. Mais les chiffres sont sans appel. Et c'est pas un problème d'erreur de mesure, on a corrigé des erreurs de mesure. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Europe, ça se passe un peu partout. La croissance ralentit. La productivité ralentit, donc notre capacité de croissance ralentit. Alors ensuite, on peut temporairement dépasser ça, notamment parce qu'on a beaucoup de chômage, et donc évidemment, là, il y a un potentiel à court terme. Mais le potentiel à moyen terme ralentit. Alors, est-ce que c'est durable, ou est-ce que c'est une vague qui consiste à absorber cette mutation, un peu comme au moment où on a introduit la machine électrique, il y a eu un ralentissement de la croissance, parce que il a fallu du temps pour transformer ce potentiel en capacité réelle de production. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Mais pour l'instant, on ne le voit pas, et donc il faut être prudent.
Alors restons là-dessus malgré tout un instant, puisque c'était un paradoxe qui occupe votre profession, les économistes, depuis un certain temps. Comment cela se fait-il que l'innovation qui semble être partout aujourd'hui, en tout cas portée par le numérique, n'entraîne pas en quelque sorte une augmentation de la croissance? Il y a aussi des craintes qui se font jour, notamment des craintes d'automatisation poussée. Amazon a annoncé la semaine dernière qu'il était possible de faire un magasin avec infiniment moins d'humains qu'auparavant. Les manutentionnaires seraient transformés en robots. Il y aurait donc des robots aux caisses. Et la crainte, finalement, c'est que les métiers non qualifiés, même une partie des métiers qualifiés, soient aujourd'hui délégués à de l'informatique. Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'on assiste à la fin du travail, Jean Pisani-Ferry?
Alors, sur la première question qui est pourquoi on n'en voit pas les effets, je pense que notre vie quotidienne a plus changé que notre vie professionnelle. Notre vie quotidienne, depuis 10 ans, elle s'est transformée avec les smartphones, avec l'irruption du numérique. Et notre vie professionnelle, finalement, moins. On a un peu toujours les mêmes ordinateurs. Mais c'est en train de changer. Et on est probablement dans la phase dans laquelle on est en train de construire toute cette infrastructure de l'entreprise de demain, qui effectivement sera beaucoup plus économe en travail humain, et notamment en travail assez qualifié. Puisque la caractéristique de ce progrès technique, c'est que c'est, contrairement au progrès technique du passé, qui supprimait des emplois peu qualifiés et qui créait des emplois qualifiés, ce progrès technique-là, si on peut l'appeler progrès, enfin... Il supprime des emplois intermédiaires et même intermédiaires allant assez haut. Il crée des emplois très qualifiés et il crée des emplois très peu qualifiés. Mmh. Si vous voulez une image, c'est le vendeur, le libraire, le vendeur en librairie qui connaît ses livres, mais qui est remplacé d'un côté par un développeur web et de l'autre côté par un chauffeur-livreur. Voilà. Donc l'emploi intermédiaire tend à se réduire au profit des deux extrêmes, c'est la polarisation. Et ça menace, ça menace la classe moyenne, ça menace la perspective de progrès individuel, parce qu'il y a une espèce de vallée de la mort entre les emplois peu qualifiés et les emplois très qualifiés. Donc c'est très profondément perturbateur pour nos sociétés.
Mais avec un risque supplémentaire, c'est que le livreur disparaisse, puisque aujourd'hui on voit aussi bien Uber qu'Amazon travailler par exemple sur des solutions de livraison qui soient entièrement automatisées. Uber a beaucoup investi sur la voiture autonome, Amazon possède, paraît-il, un certain nombre de pistes pour faire livrer par des drones. Si par exemple le chauffeur-livreur disparaissait, les personnes qui occupaient auparavant ces emplois moins qualifiés, que feront-ils?
Oui, je prenais cette image, mais il y a beaucoup d'emplois de service à la personne qui sont difficilement automatisables, même si on parle dans les Japonais qui mettent en place des robots pour les personnes âgées. Aujourd'hui, les chiffres qui ont été cités, près de 50% d'emplois automatisables, sont très excessifs. Hein. Quand on regarde les choses de près, nous on l'a fait, l'OCDE l'a fait, on tombe sur des chiffres beaucoup plus faibles parce que, au fond, dans beaucoup de ces emplois de service, il y a une autonomie qui est nécessaire, il y a une capacité de jugement et on n'en est pas au stade où les machines vont pouvoir le faire.
Donc à qui de la faute l'ouvrage que vous faites paraître, Jean Pisani-Ferry, avec Selma Mahfouz aux éditions Fayard? Il est beaucoup question d'erreurs et d'erreurs d'appréciation. Dans quelle mesure, finalement, les politiques économiques échouent parce que les décideurs n'ont pas les bonnes informations ou ne veulent pas avoir les bonnes informations? L'autre question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la dette. Toujours aux États-Unis, on a l'impression que Donald Trump veut laisser filer les déficits. En tout cas, il veut faire un programme de grands travaux. Quelles pourraient être les conséquences de ce programme de grands travaux? Une augmentation encore de la dette américaine?
Alors, je ne sais pas très bien comment il va le faire, parce que effectivement, il a annoncé cela. Les États-Unis ont besoin, à l'évidence, d'un programme d'infrastructure. Hein. L'infrastructure de transport, par exemple, aux États-Unis est défaillante, mais très défaillante par rapport à ce qu'on connaît en Europe. La question, c'est est-ce qu'il va le faire par la dépense publique ou est-ce qu'il va le faire en libéralisant, en créant des conditions pour que des investisseurs privés puissent davantage intervenir dans ce domaine. Et ça, c'est pas lui seul qui va en décider, c'est lui et le Congrès. Le Congrès qui est donc un Congrès républicain, plus réticent, sensiblement plus réticent peut-être à la dépense publique que Donald Trump lui-même. Donc on ne sait pas très bien où sera l'équilibre à la fin. Bon, s'il y a une relance par la dépense publique, les États-Unis sont dans une situation assez un peu à l'équilibre, au sens où ils ont beaucoup moins de réserves de croissance que nous, parce que leur taux de chômage aujourd'hui est beaucoup plus faible. Donc, la capacité des États-Unis à répondre à un choc budgétaire est plus incertaine. Ceci dit, l'économie mondiale dans son ensemble aujourd'hui est toujours en déficit de demande. Donc d'avoir plus de demandes venant du côté public, ça pourrait faire du bien.
Bon, alors donc on voit qu'il y a effectivement une interrogation à ce sujet. L'autre solution, Jean Pisani-Ferry, si on a donc cette possibilité de lancer un programme de grands travaux, c'est de voir que les milieux d'affaires semblent extrêmement satisfaits par cette politique. La bourse monte, je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais justement pour vous, est-ce que cela veut dire que les milieux d'affaires sont extrêmement sûrs de la réussite du programme économique de Donald Trump ?
Ils sont très contents de l'annonce des baisses d'impôts. C'est simplement ça d'abord, hein. C'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est ce qu'ils attendent d'un programme de libéralisation. Donc il me semble que c'est plus une réaction à cela. Il y a aussi peut-être la réaction, effectivement, à l'idée qu'il va y avoir d'une manière ou d'une autre une relance. Mais vous savez, il va y avoir un jeu compliqué avec la Réserve fédérale, parce que la Réserve fédérale a énormément soutenu la croissance, avec cette politique d'assouplissement quantitatif, de taux d'intérêt extrêmement bas. Elle est au bout. Et la question, c'est combien de temps est-ce qu'elle va rester dans cette attitude ?
Donald Trump a la réponse, puisqu'il a dit qu'il se proposait de changer Janet Yellen, même si on ne comprenait pas très bien pourquoi il fallait la changer.
C'est ça dont je parle. Il peut y avoir assez vite une situation d'affrontement là-dessus.
La changer au profit de qui ? Pas un nom de personne qui ne serait de toute façon pas très connu des Français, mais pour quelle politique ?
La Fed a mené une politique assez remarquable. Elle l'a menée sous un gouverneur nommé par les Républicains, un président nommé par les Républicains, Bernanke, grâce auquel, je pense, on a évité le pire, hein, la catastrophe la pire. On peut aussi nommer son cheval à la tête de la Réserve fédérale, c'est pas grave.
Bon, écoutez, on verra quel est le nom du cheval de Donald Trump. Et puis surtout, on va parler des erreurs françaises, parce qu'il n'y a pas que des erreurs à l'étranger. Il y en a aussi en France. Vous en parlez dans « À qui la faute ?» et on en parlera aux environs de 8h20